Nous demain. Une émission de Jean-Pierre Estrampes. Architecture. Urbanisme. Cadre de vie. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de critique architecturale et les impostures qui sont liées à cela. Alors c'est une thématique que vous avez entendue certainement dans cette émission assez souvent, donc je ne déplore pas la critique mais je déplore l'absence de critique. Oui, l'absence de critique en architecture, c'est un phénomène qui est relativement récent, comme je vous disais. On peut dire qu'il date d'une vingtaine d'années, peut-être quelques années de plus. Pourtant, l'architecture, comme tous les arts, faisait l'objet de critiques régulières dans la presse, à la fois la presse quotidienne. Il y avait des critiques comme Edelman dans Le Monde qui avait une chronique assez régulière suivant les événements liés à l'architecture, les bâtiments neufs, les bâtiments qui étaient liés aussi à des ensembles urbains ou aussi des critiques d'urbanisme, enfin un panel assez large et avec une place assez importante. Et on trouvait ça dans différents journaux avec, disons, des niveaux différents sur ce qu'on peut appeler la critique. Or, la critique, elle n'est pas uniquement négative. Elle est faite aussi d'évaluation, de compliments, mais aussi des compliments avec un peu de retenue. Voilà. Donc, c'est un phénomène qui, heureusement, perdure dans les autres arts que sont, par exemple, le cinéma. On peut dire l'art le plus populaire actuellement, où tous les journaux ont des critiques. Vous avez dans les films que l'on visionne sur les chaînes de télévision, vous avez des évaluations publiques, des évaluations presse, et on peut avoir, ou non seulement dans des magazines spécialisés ou des journaux comme Télérama, plus spécialisés sur le spectacle, mais il y a une chronique régulière qui est tenue, par exemple Le Figaro. Le critique cinéma du Figaro, Éric Neuhoff, est rentré dernièrement dans l'Académie française, qui est la consécration ultime du monde de l'écriture et du monde littéraire. Donc il est rentré, bien sûr, non pas pour une œuvre parallèle qui existe, mais surtout pour ses chroniques, qui sont des chroniques essentiellement cinématographiques. Donc on a aussi le Festival de Cannes, qui est l'objet de sélections, et bien sûr de critiques. Quand on sélectionne, ça veut dire qu'on élimine et que l'on critique. Donc tout ça est très sain et très vivant. Alors, en musique, en parallèle, on a aussi en parallèle des Oscars, on a des récompenses musicales qui sont données, alors à différents niveaux. C'est donné aux enregistrements et aux réalisations, mais aussi c'est donné dans les festivals, c'est donné aussi dans les concours musicaux qui sont internationaux. Et en fait, on a toute une série d'évaluations et des critiques qui est, on peut dire, permanente dans ce milieu. Donc, ça montre bien la vivacité du milieu. Alors, c'est vrai que dans les arts plastiques, ça a été, on peut dire, la critique la plus féroce au XIXe siècle qui portait sur les arts. Alors, tout le monde connaît la critique des impressionnistes et on en fait toujours des gorges chaudes sur le côté négatif des critiques, mais tout ça était extrêmement sain. Parce que du moment que l'on réagissait à une forme d'art nouvelle, ça veut dire qu'il y avait des intérêts et on avait des titres dans les journaux. Par exemple, Degas, la mort de Degas, c'est en première page, en titre. Donc, il y avait un phénomène, on peut dire, lié aux arts, qui a perduré au cours du XXe siècle, mais qui, on peut dire, dans l'après-guerre, a été aussi remplacé, on peut dire, par une sorte de publicité autour des phénomènes de presse et des phénomènes d'admiration autour des différents mouvements de peinture. C'est-à-dire, au lieu d'avoir l'opposition entre les mouvements, on a eu une sorte de glorification de tous les mouvements. Alors, il y a eu le pop art avec Andy Warhol, puis il y avait l'abstraction lyrique, il y avait, enfin, différents mouvements, donc aussi des mouvements réalistes. On a par exemple un peintre qui vient de mourir et qui était très important, qui est David Hockney, qui est mort cette semaine et qui avait une notoriété très importante. Mais tout cela, on peut dire, était les uns à côté des autres, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une sorte de comparatif et on avait l'éclosion de vedettes et les plus incongrues aussi, avec les résultats dans les ventes aux enchères qui apparaissent comme une sorte de loterie ou de tiercé, mais les réactions négatives n'existent pas et on avait les commentaires dans les journaux qui tournaient autour du étonnant, sublime, en fait des mots qui sont assez ridicules et qui montrent une sorte de régression intellectuelle. Alors je parlais de la critique, mais on a dans d'autres domaines, ne serait-ce que la cuisine, qui est considérée comme un art mineur, qui ne prétend pas d'ailleurs autre chose que cela. Et on sait que les attributions d'étoiles Michelin constituent chaque année une sorte de course internationale très importante et avec des avis partagés, des débats. Mais et on a dans les journaux des critiques culinaires qui font des comparaisons entre les tables. Et l'architecture, qui est pourtant par rapport à la cuisine, je suis désolé, par rapport aux cuisiniers et aux amateurs de musique, mais enfin quand même, qui est d'une autre dimension sociale et une autre responsabilité, on peut dire financière, eh bien, l'architecture échappe à la critique depuis, comme je vous disais, 20 ou 25 ans. Alors, quelles sont les raisons à cela? Eh bien, les raisons, elles sont diverses. Mais il y en a une, on peut dire, immédiate et juridique, c'est que les architectes, ou du moins les architectes qui avaient endossé le dossard de la célébrité avec des intérêts qui étaient liés, on peut dire, dans le monde à la fois politique, à la fois probablement le monde aussi financier, de la promotion, etc., n'acceptait plus la critique. Donc il y a eu des procès, et ou du moins des menaces de procès. Il y avait eu une critique, par exemple, qui avait été faite à une agence, j'ai oublié le nom, et puis peu importe, mais qui avait fait un projet qui était très écolo, et le critique architectural avait dit que c'était du greenwashing, qu'en fait tout était mis en façade, mais qu'au final le bâtiment était un bâtiment tout à fait en béton ordinaire, qu'il y avait uniquement que des effets d'annonce et que tout ça, c'était de la poudre aux yeux. Mais devant la menace de procès, évidemment, tout cela s'est arrêté. Et aujourd'hui, on peut avoir, on peut dire, la publicité que se font les architectes qui n'a aucune, on peut dire, qui n'a aucun contre-pouvoir en face et qui peut raconter n'importe quoi. Donc, c'est l'objet de la deuxième partie de l'émission, c'est de montrer que l'absence de critique, eh bien, l'absence de critique va créer des impostures. Et on va citer quelques impostures, et je prends évidemment le risque de cela.
The Duke and Ella. So let's have a wonderful.
Don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, 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 do I. It don't mean a thing, all you gotta do is sing. Do I, 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 do I. Makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you've got. Oh, don't mean a thing if you ain't got that swing. Do I, 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 do I. It doesn't mean a thing if it ain't got that swing. Do I. Don't mean a thing, all you gotta do is sing. Do I, 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 do I. Make no difference if that's sweet or hot. Give that rhythm everything you got. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, 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 do I.
Alors nous parlons des impostures. Alors les impostures, elles sont de plusieurs ordres. Alors c'est toujours une affaire assez compliquée parce que c'est lié aussi à des personnalités qui ont disparu. Et on a des historiens qui reconstituent souvent c'est à des fins assez complexes. Alors j'avais déjà parlé dans cette émission du cas de Charles de Perriand, qui avait été une collaboratrice de Le Corbusier. Et il y a eu une campagne extrêmement bien orchestrée. Alors comme toujours, il y a à la fois une idéologie hein, qui est liée à cela, donc on peut dire sans crainte qu'il avait une part, on peut dire, de néo-féminisme en disant les femmes ont été oubliées dans l'architecture et les architectes qui les ont employées leur ont volé leur créativité parce que c'était des gros machos, etc. Bon, alors effectivement, ça tombait avec Le Corbusier et on a plus on montait Perriand, plus il s'agissait de descendre Le Corbusier et il y avait une campagne, on peut dire, co-organisée pour les deux. Alors, il y avait dans ce cas-là des intérêts financiers assez sordide, enfin sordide, je ne sais pas si on peut dire sordide, mais qui est lié à la production du mobilier qui s'appelle LEC, édité par Cassina. LEC, c'est Le Corbusier. Et en l'attribuant à Perriand, on avait les royalties qui sont liées à l'édition de ce mobilier qui est diffusé dans le monde entier par cette société italienne qui s'appelle Cassina, et donc qui, elle, avait intérêt à que les droits ne tombent pas dans le domaine public, ça veut dire que tout le monde pouvait éditer tandis que et Cassina en perdrait l'exclusivité, mais également les sommes très importantes qui étaient versées d'une part à la famille de Charlotte de Perriand et également à la fondation Le Corbusier qui est chargée de gérer les droits de Le Corbusier. Mais les droits de Le Corbusier, c'est des photos, bon, tandis que là, c'est vraiment des sommes qui sont très importantes. Donc tout le monde avait, on peut dire, intérêt à que l'opération Perriand, avec une exposition dans la fondation Louis Vuitton, était aussi, on peut dire, l'acmé de cette opération. Alors il y a eu des livres entiers et tout ça à partir d'une histoire qui était grandement inventée, puisque Charlotte Perriand était étudiante quand elle est allée travailler pour Le Corbusier. Je pense très certainement qu'il y a eu une relation amoureuse entre elle et lui. Elle était une très, très jolie jeune femme. Et donc, elle a travaillé à la création de ce mobilier. Mais il est évident que le fait de l'attribuer me paraît totalement faux. Il faut bien le dire, dans la mesure où, une fois qu'elle est partie de chez Le Corbusier, et une fois que cette série a été terminée, sa production à titre personnel, tout au long de sa longue vie, a été, on peut dire, surinterprétée, parce qu'en fait, il s'agit d'immeubles, de meubles tout à fait d'une grande banalité, et on en a fait la pionnière du design, elle a inventé le design moderne, tout ça est complètement faux historiquement, et bon, je ne vais pas développer cela ici, mais il y avait le Bauhaus avant, enfin, tout ça, c'est une farce totale qui a été faite. Et encore le clou de l'histoire, c'est que on lui a attribué, et si vous regardez sur internet la station d'Arc, on lui a attribué qu'elle était architecte, urbaniste, qu'elle avait construit une station de ski, évidemment, ce qui est totalement faux, et d'autant plus qu'il y avait effectivement une équipe d'architectes qui à l'époque était connue mais qui a disparu sur les radars, parce que le problème justement de ces opérations, c'est qu'en faisant monter quelqu'un, on fait effacer d'autres. Donc, il y a eu d'autres opérations de ce type, mais on peut dire d'une manière générale que les architectes aujourd'hui, on peut dire que c'est l'apparence de ce qui est publié dans les revues qui en fait la notoriété, plus que le bâtiment lui-même. Donc, pour résumer la situation, c'est-à-dire que quand on parle de cinéma, par exemple, bah, les gens qui parlent de cinéma, c'est qu'ils ont vu le film. Ou quand on parle d'un livre, c'est qu'on a lu le livre. Parler de cinéma, de littérature et de critique, on est dans des domaines où il y a des réalités. Alors le plus extraordinaire avec l'architecture, c'est qu'il y a une sorte de dématérialisation de l'art le plus matériel qu'est l'architecture, et ce sont les images. Et les images, comme vous le savez, elles peuvent être aussi trafiquées, et souvent, quand on va voir des bâtiments qui ont été publiés, on est un peu déçu dans la réalité du bâtiment par rapport à cela. Mais personne n'ose le dire parce que bah, c'est l'image qui fait tout et on arrive à avoir des notoriétés à partir de bâtiments que quasiment personne n'a vu, comme c'est le cas de musées dans les pays arabes que très peu de gens voient, mais dont les images sont publiées et créent de la notoriété et créent aussi le fait que les gens peuvent s'esbaudir avec des « quel génie, sublime », etc. Donc, c'est un phénomène assez général, et on a par exemple, qui s'applique non seulement aux architectes vivants, et évidemment, c'est ce qui les touche le plus. Alors, je parlais tout à l'heure d'un passé récent, mais on a par exemple le phénomène sur Gaudi et la Sagrada Familia. Il est, je crois, totalement impossible aujourd'hui d'émettre la moindre réserve sur ce bâtiment. Et ce n'est que le plus beau bâtiment de l'humanité, la plus belle église du monde. Et personnellement, je pense que tout ça est excessif parce que d'une part, quand on parle de Gaudi comme architecte visionnaire, tout ça est complètement faux. Pour s'attarder un peu sur cet exemple qui est tout à fait particulier, je pense que Gaudi a été très bien fabriqué aussi par le phénomène de catalanisation et la Catalogne qui avait besoin de montrer qu'il y avait une grande originalité. En fait, Gaudi, il fait partie d'un mouvement que vous connaissez tous, qui est le mouvement de l'Art Nouveau. Ça s'appelle le modernisme en espagnol. Mais c'est le Jugendstil, c'est le Art and Craft en Angleterre, mais on le retrouve donc Van de Belge en Belgique, Horta en Allemagne, McIntosh en Angleterre, Guimard en France, mais vous avez aussi, par exemple, à Toulouse, des bâtiments Art Nouveau, ne serait-ce que dans rue Alsace, l'ancien bâtiment de la Dépêche en mosaïque. Enfin, il y a de nombreux bâtiments de très belle qualité de cette époque dans toute la France. Donc Gaudi est dans le début du 19e siècle un des protagonistes européens de cette forme. Il y a certains bâtiments qui n'ont aucune originalité qu'a fait Gaudi, mais il a un tour de force tout à fait étonnant, qui est le parc Güell à Barcelone, là vraiment qui vaut le détour, et qui est une sorte de fantaisie animalière avec une grande richesse de couleurs et de formes. Bon, mais ça reste tout de même un bâtiment relativement anecdotique. Et puis il y a cette ruine qui est restée longtemps, même si aujourd'hui c'est pas achevé, qui était la Sagrada Familia. Alors, il est mort en ayant réalisé une toute petite partie, mais le bâtiment était fascinant parce que c'était une sorte de on peut dire de ruine romantique avec un très très grand espace intérieur, des sculptures assez médiocres sur la façade et un projet dont on n'avait pas totalement la dimension. Alors ce projet, et c'était cette époque, et surtout une période où on construit d'une manière traditionnelle, mais avec des formes qui sont libres et qui sont des formes florales, le mouvement Art Nouveau. Et donc, il y a une grande virtuosité en savoir-faire des architectes de cette époque, parce qu'ils maîtrisent parfaitement l'agencement des pierres, ça s'appelle la stéréotomie, et Gaudi en est un grand maître, mais encore une fois, il n'est pas le seul dans l'Europe à pratiquer ce savoir-faire. Et simplement, la question, c'est comment allait-il finir avec justement la pierre, un bâtiment aussi important. Et ça, la question, elle a été résolue, puisque le bâtiment, on l'a terminé en béton. Alors le béton, c'est facile. Il suffit d'avoir un moule et on coule de la pierre liquide, puisque le béton, c'est de la pierre liquide. Et on l'a habillé comme si c'était de la pierre. En fin de compte, c'est un décor hollywoodien. Et aujourd'hui, on s'extasie devant un bâtiment dont plus personne ne sait comment il aurait pu être si Gaudí l'avait terminé. On avait, lors de l'incendie, les plans ont brûlé, donc on avait que quelques éléments de maquette, et en fait c'est une invention totale, on peut dire une invention touristique, qui a un succès. Alors, devant cette espèce d'unanimisme extraordinaire qu'il y a aujourd'hui, ben je pense qu'on est quand même devant une imposture, ou du moins une imposture partielle, même si on peut toujours être épaté par le côté flamboyant de la chose. Alors, il y a aussi on peut dire, une surinterprétation, et on a sorti des gens qui étaient un peu connus et en faire des grains de gloire, et tout ça, évidemment, au détriment d'autres architectes. Il est évident, par exemple, que à Barcelone, au même moment, il y a des architectes qui ont fait, par exemple, la maison du palais de la musique, le palais de la musique catalane, qui est un bâtiment tout à fait étonnant, et évidemment qui est assez méconnu, mais c'est, comme je vous dis, pour Perriand, c'est également la même chose pour Le Corbusier. Mais il y a un phénomène qui est toulousain, qui était un architecte, on peut dire, de l'après-guerre, de l'architecte des années 60, 50-60, qui s'appelle Pierre Debeau, et qui était un architecte qui a très peu construit. Il a très peu construit parce qu'il a été associé dans une agence qui construisait beaucoup. Et lui, il avait un rôle, on peut dire, de soi-disant théoricien, mais en fait, on lui faisait très peu construire, parce que les expériences qu'il avait faites de quelques maisons n'étaient pas des grands succès et apportaient beaucoup de problèmes. Mais c'était une époque où il y avait tellement d'affaires, tellement de chantiers, tellement peu d'architectes, que tout pouvait être possible. Donc aujourd'hui, il y a eu une résurgence de cet architecte, notamment avec un bâtiment qui était la caserne Vion, qui a été à son époque un bâtiment qui a été très compliqué, parce que justement, il avait été en charge de ce chantier, et que ce chantier lui échappait, des augmentations de prix, des délais rallongés, et des fantaisies qui étaient totalement inutiles pour un bâtiment tout à fait fonctionnel, on peut dire, une caserne de pompiers. Et donc ce bâtiment, qui est inscrit à l'inventaire des bâtiments historiques aujourd'hui, par deux architectes qui se sont trouvés être les propagandistes de cela. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que devant un bâtiment incongru et avec beaucoup de ratés, qui a eu une histoire assez compliquée, tout le monde est encore une fois à tous les qualificatifs de visité, de sublime, etc. Et d'une manière objective, ce bâtiment ne l'est pas. Et on est justement dans le début de mon propos, c'est quand il y a une absence de critique, on peut avoir toutes les impostures qui arrivent, et là, nous en avons une à Toulouse qui est tout à fait remarquable, et il s'agira de voir quelle suite on va donner à ces propos. C'était « Où vivrons-nous demain ?» Je remercie Sacha qui était à la technique, et je vous dis à la semaine prochaine.